Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut messieurs, j'espère que tout roule. Dites-moi, je suis au World Football Summit à Séville. Je viens d'assister à un panel sur la stratégie de développement de la Saudi League. Et je me dis que ça pourrait être un très bon sujet pour notre premier dossier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pas tout, je pense. Et puis surtout, on n'a pas posé notre regard dessus. Donc ça peut être l'occasion. Dites-moi ce que vous en pensez.
Salut Mathieu. Et bah écoute, moi le sujet m'emballe bien et puis en plus ça tombe super bien puisqu'il y a le SoFoot qui sort très bientôt et j'ai cru comprendre, le prochain SoFoot, que la couverture était consacrée à l'Arabie Saoudite. Donc je vais me renseigner sur le journaliste, je crois que c'est Guillaume Venetite, qui est parti sur place enquêter et je me dis qu'on pourrait aussi l'intégrer à l'épisode et lui demander un peu ses retours en avant-première. Dites-moi ce que vous en pensez.
Bah super les gars, c'est la bonne nouvelle, parce que justement l'Arabie Saoudite, je connais pas grand chose, et donc vous allez m'aiguiller. Super, donc dites-moi les dates, et puis on se retrouve au studio.
Eh ben magnifique messieurs, je viens de voir avec Marc qui a booké le studio pour lundi prochain. Hâte de reprendre la saison 5. Allez, je vous embrasse, ciao.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette saison 5 d'Alternative Football. Le temps passe. Déjà la saison 5 et une saison 5, comme vous l'avez entendu dans notre petit teaser, notre introduction, c'est selon, avec quelques nouveautés, n'est-ce pas monsieur Cissé?
Ouais, on a eu des gros moyens,
ouais.
Et donc on a fait un mercato de folie et beaucoup d'ambition pour cette saison 5.
Alors, on voit qu'il est habitué au discours de pré-saison, monsieur Cissé. Il a fait ça toute sa vie, il fait ça comme un chef. Et donc l'innovation principale, c'est ce fameux format dossier qui nous permet en plus d'avoir une conscience physique, puisque monsieur Marchand est avec nous dans le studio, casque sur les oreilles, micro branché.
Très heureux de vous retrouver. Les minutes que j'ai passées lors de la saison 4 à la fin de saison, j'ai eu un peu de temps de jeu. Ça m'a donné envie d'avoir une place de titulaire. Et voilà, je vous ai demandé pendant l'intersaison et vous m'avez dit oui.
Est-ce que ce serait pas le Warren Zaïre Emery d'Alternative Football?
Je voulais pas le dire. C'était évident. C'était évident.
Et donc, s'ajoute à Warren aujourd'hui un autre invité pour ce premier dossier, ce premier format dossier. Guillaume, je te laisse te présenter avant de présenter ce dont on va parler du coup.
Ouais, et bah, je m'appelle Guillaume Venetite, je suis journaliste pour SoFoot depuis maintenant 8 ans. Et ça a commencé avec un championnat exotique. D'accord. En Inde, avec des papiers sur place pour le site d'abord. Et donc ça fait un peu le lien avec le championnat dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire un championnat qui prend de l'ampleur avec des stars assez imposantes.
Et absolument, très belle transition puisqu'on va vous parler pour ce premier dossier de l'Arabie Saoudite qui a agité notamment le mercato cet été, mais pas seulement, puisque au-delà du fait d'acheter des joueurs et des bons joueurs, y a également une ambition un peu plus large que ça. Et l'idée avec ce premier dossier, bah, c'est de décrypter avec nos modestes cerveaux et nos modestes connaissances et nos modestes expériences ce qui se cache derrière cet investissement dans la Roche Saudi Pro League.
C'est le sujet dont vous vouliez parler, je crois,
ouais.
Mathieu et Edouard, avec cette question du coup, l'Arabie Saoudite partie pour durer,
parti pour rester un peu. Donc on va demander à Guillaume ce qu'il a vu sur place, quelle était un peu une sorte d'introduction à ce premier dossier sur l'Arabie Saoudite. Et l'idée, c'est de coller un peu plus à l'actualité. Donc qu'est-ce que tu as vu sur place et surtout, les premières questions, c'est la notion historique et géopolitique pour situer un peu l'Arabie Saoudite dans le monde du sport, surtout, et dans le monde du foot.
Ouais, alors déjà, donc ce sera un papier qui sortira demain dans SoFoot, donc dans le magazine, ça fera la une. Donc on a cherché à comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière cette reprise en main forte, en tout cas du football saoudien, qui n'est pas un football totalement nouveau. Donc c'est pour ça que je parle de reprise en main, parce qu'en fait il y a quand même un historique. Souvent, en Europe, on a quand même l'impression que voilà, bah, il n'y avait rien avant les investissements de cet été. Et avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo en décembre 2022. Alors qu'en fait, non. Le championnat saoudien, il a commencé en 74, ouais, si je ne me trompe pas, voilà. L'équipe nationale a fait sa première Coupe du Monde en 94, a participé 5 fois à la Coupe du Monde. Et il y a une vraie passion pour le foot. Donc sur place, en fait, quand vous allez là-bas, si vous faites le derby de Riyad ou le derby de Jeddah, vous allez voir des gens qui ont la même passion que si vous allez en Angleterre, avec une forte histoire familiale, culturelle, des références d'anciens glorieux joueurs.
Donc les stades sont pleins.
Donc les stades sont souvent très pleins, en tout cas pour les derbies, en tout cas les stades sont pleins. Si vous regardez aujourd'hui les matchs sur Canal+, qui sont diffusés, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les stades. Alors, il y a eu un rebond, évidemment, avec l'arrivée des stars, de Cristiano Ronaldo d'abord, qui a fait exploser... les ventes de places et aussi le suivi sur Instagram, les réseaux sociaux du championnat. Et puis ça a pris de l'ampleur cet été, encore une fois. La reprise en main s'est faite grâce à la vision 2030, comme on dit en Arabie Saoudite. C'est le plan qui a été mis en place en 2016 par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Donc il y a une volonté en tout cas de sortir l'Arabie Saoudite de. Enfin, en tout cas de préparer l'après-pétrole. Et le sport fait partie, en tout cas, des gros investissements qui ont été lancés depuis 2016. Donc on a eu notamment, en 2019, on a eu le gros combat de boxe entre Anthony Joshua et Ruiz, à l'époque, qui avait été organisé pour 100 millions d'euros, 100 millions de dollars en tout cas à l'époque. On a le Grand Prix de Formule 1 qui est en place depuis 2020. On a aussi le golf. Donc c'est le dernier gros coup de cet été. Avec le foot, c'est qu'ils ont réussi, ils avaient lancé une ligue concurrente et qui aujourd'hui... qui a aujourd'hui en tout cas fusionné avec le PGA, donc le circuit nord-américain. Voilà, donc ils ont réussi leur coup. Et donc forcément, le foot, qui est quand même le sport roi, le sport mondial, était devenu en tout cas une priorité pour Mohamed Ben Salman depuis quelques années. Voilà.
Toi, Mathieu, qui travaille dans le monde et dans l'industrie du foot depuis maintenant des dizaines d'années, est-ce que...
Le coup de vieux.
des dizaines d'années.
Il faut bien le dire.
C'est vrai. C'est
ça
vrai.
Fait des dizaines d'années, j'avais pas le chiffre exact.
Deux décennies.
J'ai commencé ma carrière il y a 13 ans, figure-toi.
T'avais déjà travaillé avec l'Arabie Saoudite, c'est pas nouveau l'Arabie Saoudite. Pour toi, c'est pas un nouvel acteur qui vient de débarquer et qui vient de nulle part.
Non, clairement pas. Moi, tu le disais, je m'occupe depuis quelques années maintenant de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, je connais bien le marché du Moyen-Orient. Et l'un des exemples qu'on peut donner sur ce que tu disais, Guillaume, le côté football, c'est que très rapidement, c'est une ligue qui est venue vers nous, vers Opta, pour qu'on collecte les données. Alors que à l'époque où ils l'ont fait, donc c'était il y a 10 ans déjà, on a 10 ans d'historique sur la Saudi Pro League, on se concentrait sur les 5 grands championnats européens et la Ligue des Champions, j'allais dire l'Europa League, mais à l'époque c'était la Coupe de l'UEFA, et vraiment quelques championnats émergents, mais parce que c'était un football déjà structuré, parce qu'il y avait une ligue avec une organisation déjà qui comprenait l'importance du fan engagement, donc de pouvoir parler aux fans, notamment avec le data, et la nécessité d'avoir des data pour progresser dans la pratique, ils sont venus nous voir à Londres il y a 10 ans, disant voilà combien ça coûte pour que notre ligue soit collectée. Donc c'est très différent, par exemple, on parlera plus tard de la Chine ou d'autres, qui sont arrivés beaucoup plus tard, et avec une ambition sur ces sujets-là beaucoup plus mesurée, simplement pour accrocher le wagon plutôt qu'avoir une vraie idée de structurer et la pratique et le côté communication et médias.
Comment tu connectes les données là-bas?
Un peu comme en France, là, avec les caméras et tout ça,
comment ça fonctionne ? Alors, c'est exactement les méthodes de collège, c'est qu'on applique, c'est exactement les mêmes, quelle que soit la ligue. Donc, il y a des prérequis, c'est-à-dire que pour ce qui est la partie avec le ballon, tu sais, il nous faut un flux télé suffisamment qualitatif. C'était déjà le cas parce que la compétition était diffusée dans la région. Donc, encore une fois, ce qui est une preuve de maturité, tous les matchs étaient produits et diffusés en direct. Donc, on n'avait pas de limite à collecter la donnée pour ce championnat-là. Et après, pour ce qui est du tracking, donc le suivi des joueurs, là, effectivement, comme tu le dis, c'est de l'optique avec des caméras qu'on met dans les stades. Encore une fois, tu discutes avec eux de comment ça s'organise, est-ce que les stades sont suffisamment connectés pour pouvoir le faire. On a eu, au départ, dans certains stades, quelques limites, mais après, Jeddah et Riyad, c'est des grandes villes. Et puis l'Asie est très bien connectée. L'Arabie Saoudite, qui a en plus une capacité d'investissement dans l'infrastructure, est aussi plutôt bien connectée. Donc on n'a pas eu de barrière déjà il y a 10 ans sur notre capacité à appliquer à ce marché du football-là ce qu'on appliquait au marché du football européen, type la France, l'Angleterre, etc. Donc tu as les barrières qu'on a pu avoir derrière avec la Chine quand on a commencé à collecter la CSL, ou qu'on a même eu avec le Qatar quand on a commencé à faire de la QSL, on les a pas eu avec l'Arabie Saoudite, aussi parce que c'est pour le coup une terre de foot.
Est-ce que tu l'as senti venir ? Est-ce que tu as été étonné de l'été 2023, ou tu l'as senti venir ?
Étonné, non, parce que déjà, de manière générale, dans la région, il y a une émulsion qui existe depuis plusieurs années sur le sujet du foot. On va en reparler plus tard, le Qatar, c'est très différent de l'Arabie Saoudite, qui est très différent des Émirats, même si les deux derniers sont plus proches qu'avec le premier. Donc c'est vraiment, c'est des pays différents, c'est aussi des modèles de gouvernance différents, mais c'est un peu comme en Europe, c'est-à-dire que le football est le sport principal. Tout le monde aime le foot, tout le monde consomme du foot, et on a vu un ramp-up, comme disent les Américains, des investissements qui viennent de la région depuis maintenant quasi 10 ans. Donc la question sur l'Arabie Saoudite, c'était pas tant s'ils allaient investir, c'est comment ils allaient investir. Le modèle jusque-là, notamment celui des Qataris qu'on connaît, c'est l'export. On investit au PSG, on gagne un peu nos galons comme ça, on investit beaucoup dans le lobbying auprès des instances, on place des gens, on arrive à avoir la Coupe du Monde. Est-ce que l'Arabie Saoudite allait dupliquer le modèle ? On s'est un peu posé la question, parce qu'ils ont bougé sur Newcastle il y a quelques années, on s'est dit, ils achètent aussi un club en Europe, un club avec une grosse marge de progression, donc pour le coup, le modèle était potentiellement un peu similaire. Mais relativement rapidement, nous en tout cas, dans les échanges qu'on a pu avoir dans nos relations commerciales, on a senti un sujet peut-être un peu plus drivé business, c'est-à-dire que l'implication du fonds d'investissement, qui était aussi le cas avec QSI au Qatar, sur des sujets assez techniques, sur des sujets assez foot, est venu assez rapidement. Te dire que j'avais vu qu'ils allaient prendre 75% dans les 4 Euroclubs, non, pas du tout. Maintenant, cette ambition de vouloir structurer le championnat, oui. Et après, ça a été phasé, c'est-à-dire que tu as quand même des joueurs qui étaient des joueurs, peut-être pas de premier plan européen, mais des bons joueurs d'Europe qui jouaient là-bas depuis quelques années. On parlait de Gomis tout à l'heure. T'as Moussa Maraga qui était un bon joueur à Porto, qui avait fait le choix d'aller là-bas. Ça s'est fait de manière progressive. Et après, quand on connaît un petit peu la région, qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé là-bas, effectivement, quand MBS présente sa vision 2023 relativement tôt, puisque
c'est quoi, 2016
je crois que son premier poste, c'est ministre de la Défense en 2015. Et petit à petit, si tu veux, il grimpe jusqu'au poste de Premier ministre qu'il occupe aujourd'hui, qui est d'ailleurs, qui, pour placer un peu le contexte du pouvoir de ce mec, qui est en général, en Arabie Saoudite, le Premier ministre, c'est forcément le roi régent. C'est la première fois dans l'histoire que le roi n'est plus Premier ministre. Et donc, quand il déroule cette vision, tu comprends que t'as de grandes verticales et que l'entertainment en est une, hein, parce qu'on parle du foot, mais ils ont accueilli des concerts à foison. Il y a tous les DJ électro du monde qui sont allés faire des sets en Arabie Saoudite depuis quelques années aussi. Tu comprends aussi que le foot, dans cette ambition d'ouverture, est une verticale importante.
Tu sais qu'au niveau du timing, pourquoi maintenant ou à l'été, non, c'était en janvier, hein, 2023. Je pense qu'ils ont été très smart. Je crois qu'ils ont vu comment on allait pouvoir communiquer sur des super ambassadeurs. Donc, ils avaient commencé un petit peu avec Messi et Cristiano Ronaldo. Ils se sont dit, bon, eux, ils vont jouer jusqu'à 36, 37 ans. Et à partir du moment où ils vont être vers la fin de leur carrière, c'est à ce moment-là qu'on va aller les chercher. Et c'est pour ça que je pense que c'est 2023, 2024 où ils ont accéléré. Et c'est vrai qu'ils ont commencé d'abord avec Cristiano Ronaldo et puis après Messi avec l'annonce stratosphérique de ce salaire qu'il a refusé, certes, mais il est ambassadeur. Il continue à être ambassadeur. Il n'est pas fou, quand même.
C'est ce qu'on oublie, parce que vous vous rappelez du sujet PSG où Messi est suspendu, etc. Oui, je trouve qu'on l'oublie un peu, mais il est suspendu parce qu'il part en Arabie Saoudite négocier son deal, de représentation. Ou alors, je ne sais pas s'il avait déjà le deal, c'était justement pour les engagements qu'il avait déjà pris, mais ils sont allés aussi. C'est ça qui est fort aussi, t'as raison de le souligner, Edouard, c'est que ils sont allés taper sur Ronaldo et Messi. Alors que tu vois, les gros transferts, on va beaucoup parler de la Chine, parce que c'est vrai que c'est souvent, les deux sont souvent mis en exergue, c'est que la Chine, je crois que le recrutement de phare, c'était Hulk. Tu vois, le Hulk brésilien.
Oscar et
Drogba.
Drogba et Nico Anelka aussi.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Thélèse qui allait aussi.
Et sans manquer de respect à tous ces joueurs qui sont des grands joueurs, notamment Nico Anelka, que je porte particulièrement dans mon cœur.
Ils étaient en fin de carrière.
Et puis c'est pas Messi et Ronaldo. Tu vois,
c'est ballon d'or.
C'est
11 ballons d'or.
À eux deux.
Voilà, donc effectivement.
Sur le retentissement.
Ils tapent fort. Ils ont bien, stratégiquement parlant, ils ont bien tapé.
Et tu parlais de l'opportunité, de la date, Edouard, justement, je pense qu'il y a aussi 2023, c'est qu'ils ont attendu en fait que Ronaldo soit vraiment dans un trou à Manchester, c'est-à-dire qu'il se fait jarter en fait, en novembre, et donc il y a un mois de négociation, et en fait, je pense qu'il tournait un peu autour, il y a eu Newcastle en 2021, et puis là, il y a eu l'opportunité de marché qui s'est créée avec Cristiano, ils y sont allés, et ça a lancé finalement le processus.
Mais il y a un truc que tu dis qui est très important, et qu'on oublie beaucoup quand on parle du Moyen-Orient, c'est que tu as cette image très injuste, ça ça n'engage que moi de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense pour bien connaître le marché, de considérer que c'est des gens qui surpayent tout. Mais c'est des excellents hommes d'affaires, hein. Que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar ou
ils le pareil. Ils le sont devenus. Et puis après, quand ils aiment,
ils envoient c'est ça. Après, ils ont la puissance économique pour être meilleurs que les autres, mais quand tu regardes, là, les salaires des joueurs qui sont arrivés, effectivement, les joueurs sont très bien payés, mais les fees de transfert, à part peut-être Neymar à 90,
c'est ce que j'allais te dire.
T'en as d'autres. Le FI, il est à 25, tu vois, il est à 25 millions. Je trouve pas que sur le FI de transfert, il y ait eu une escalade.
Non, mais t'as raison, parce que 90 millions pour Neymar, on peut trouver que c'est excessif d'un point de vue européen, mais ils vont faire du marketing avec lui. Donc ils vont.
C'est 30 millions, c'est ça. C'est gratuit, presque.
C'est cheap.
Fofana, c'est 20 millions.
C'est pas déconnant.
Tu vois, je suis désolé, mais Fofana, qui part dans un championnat européen, il part à plus de 20. Et il y a cette perception de considérer que parce qu'ils sont en capacité de surpayer, ils vont surpayer, alors que, et mon expérience à moi dans les négos avec l'Arabie Saoudite ou avec le Qatar ou avec les Émirats, parce que pour le coup ça on va le retrouver un peu partout, c'est que c'est des gens qui sont de très bons hommes d'affaires et qui connaissent la valeur des choses. Quand ils ont envie de s'acheter quelque chose parce qu'ils ont envie de le faire, ils ont la capacité de le faire. Mais moi, c'est pas des pays où on a des négos faciles parce que les mecs ouvrent les vannes et décident qu'ils peuvent se payer ce qu'ils veulent comme ils le veulent.
Donc c'est vraiment des investissements et pas des dépenses.
Et puis tu vois, c'est aussi, les gens sont formés à ça. C'est-à-dire que, on reviendra tout à l'heure sur le fait que l'Arabie Saoudite, en termes de société, c'est hyper différent du Qatar et des Émirats. Mais les gens qui ont les moyens envoient leurs enfants étudier dans les plus grandes écoles en Angleterre, en France, aux États-Unis. Donc c'est au-delà du fait que culturellement c'est des gens qui font des affaires, c'est des gens qui, aujourd'hui on est sur des gens qui sont formés en plus à cet exercice.
Et par rapport à l'ouverture, à cette vision dont tu nous parlais, Guillaume, qu'est-ce que les personnes que tu as pu rencontrer sur place ou à côté t'ont dit par rapport à toute cette vision et toute la partie un peu soft power qui revient beaucoup dans les autres médias? Sur les médias foot, on est très plus sur les prix, dans les autres médias un peu plus hors foot, on est plutôt sur MBS, tout le soft power. Toi, tu as vu cette vision, qu'est-ce qui se dit un peu dans les régions autour et sur place?
C'est un peu entre les deux en fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes qu'on a vues qui sont du Moyen-Orient qui vont nous dire, en fait, vous savez, les Saoudiens, ils se lèvent pas ce matin en disant on va faire du soft power, en disant on va essayer que l'Europe nous aime bien, qu'ils oublient un peu nos entorses sur les droits de l'homme, nos violations des droits humains, etc. Ils pensent pas comme ça, en fait. Ils raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent sur pour eux, c'est un business. Ils ont investi dans un business. Ils vont le faire fructuer. Et on verra après. Et alors, après, sur le côté football, les footballeurs, nous, à qui on a pu discuter, ils nous disent en fait, nous, c'est une bonne opportunité. Je pense qu'Edouard pourra nous rebondir là-dessus, mais en fait pour eux c'est leur métier et donc en fait c'est une offre aussi qui ne se refuse pas et les considérations sont pas les mêmes que les nôtres nous qui sommes vraiment en dehors de la mêlée, quoi.
Elle peut se refuser. Elle peut se refuser si tu joues dans le top 6 européen, au Real Madrid, Barcelone, parce que tu dis, bon...
PSG.
Et tu vois là. Tu vois, tu fais partie de, sportivement des plus gros clubs, tu gagnes très bien ta vie et tu dis, t'as des ambitions. Et quand tu fais pas partie de ce top 6 ou 10, bah, tu te dis, tu réfléchis à deux fois, quel âge tu as, est-ce que j'ai la possibilité de jouer à la Champions League, de la gagner, est-ce que je peux être champion de mon pays et gagner un titre? Non. Ok. Et en plus, si t'es de confession musulmane, tu dis, bon, c'est vrai que là, j'ai la possibilité de vivre ma foi tranquillement, posément, et gagner plus d'argent. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis en plus, sportivement, ça commence à upgrader. Bah, tu dis, bah bingo, j'y vais. Et puis tout le monde est gagnant. Parce que ça, on oublie les joueurs, mais aussi les clubs. Parce que Paris, effectivement, ils séparent de Neymar, mais ils prennent quand même un petit chèque de 90 millions. C'est pas déconnant. Et les autres clubs aussi. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, je trouve que c'est des deals qui sont cohérents.
On en parlait tout à l'heure un peu en antenne, mais toi, quelle aurait été ta... Mettons que tu as 29 ans, tu es au prime de ta carrière, l'Arabie Saoudite te contacte. Quelle était tu nous en as un peu parlé là, mais quelle aurait été ta réflexion par rapport à l'Arabie Saoudite?
Tu parles de mon âge, 29 ans. 29 ans, c'est l'âge à laquelle je vais en Turquie. Et la Turquie, Istanbul, je me dis, la première question, c'est que, effectivement, c'est même pas une question, c'est que c'est un salaire qui arrive. Et c'est un beau salaire. Mais je me dis, bon, non, je suis à Paris, ça passe. Et comme je refuse, là, ils se disent, ils augmentent la somme. C'est-à-dire qu'ils doublent la somme. Et là, dans ce cas-là, tu commences à réfléchir. Tu dis, ah ouais, d'accord. Mais ce qui m'a permis de choisir aussi Beşiktaş à la Turquie, c'est qu'ils jouaient à la Champions League. Donc, sportivement, tu dis, bon, je suis visible. Et pendant longtemps, l'écueil, c'était, non, si je vais dans un championnat exotique, je ne suis pas visible, donc je suis perdu, c'est terrible. Là, à 29 ans, maintenant, tu vas en Arabie Saoudite, les matchs sont télévisés, c'est Canal qui a racheté les droits, tu gagnes énormément d'argent, tu as des super joueurs, je veux dire, quand tu joues avec Sekou Fofana, et en plus, il y en a d'autres, il y a Kessier, qui c'est des top players, tu dis, est-ce que, objectivement, si j'étais resté en Europe, j'aurais pu jouer à côté de ces joueurs-là? Donc, tu dis, il y a beaucoup de points positifs quand même. Hein. Effectivement, après, mis à part certains problèmes, droits de l'homme et tout ça. Mais globalement, tu as beaucoup de points positifs pour un joueur professionnel. Donc, 29 ans ou 26 ou 24 ans. Et puis après, pour être honnête, à 24 ans, tu vas là-bas, tu signes 3 ans. Bon, tu tentes l'expérience. Au bout d'un an, si ça ne se passe pas bien, tu reviens avec les poches pleines. Et puis après, tu te fais plaisir à jouer dans un club de seconde zone, si tu veux. Mais voilà, globalement.
C'est ce que tu nous disais un peu tout à l'heure. C'est que potentiellement, c'est une année. On teste sur un an. Et puis, tu peux revenir. Parce que tu as encore l'âge pour pouvoir revenir dans le championnat européen.
C'est comme ça qu'il faut raisonner, d'ailleurs.
Et puis, il y a un sujet qu'on a déjà abordé sur d'autres épisodes, d'ailleurs. C'est que nous, forcément, je parle de nous trois, avec Max et Guillaume et moi, on n'a pas été footballeurs professionnels.
Ah bon? Ah, tu m'as menti alors.
Je passe à
Ah ça. Ouais, c'était les croisés.
Sélection du Val d'Oise.
Ouais, tu vois.
T'as un côté très romantique, forcément, c'est le supporter qui a le prisme de le mec fait du foot, il vit de sa passion, donc la décision doit être drivée par le foot et la passion. La réalité des footballeurs, pour en côtoyer quand même pas mal, non, c'est une carrière.
C'est plus qu'une carrière. Ouais.
C'est professionnel.
Il y a plein d'enfants qui vont nous écouter, plein d'ados qui vont nous écouter. Une passion, c'est pas évident. Hein. Une passion, tu commences par une passion, et puis quand tu commences à gagner de l'argent, cette passion, elle se transforme naturellement en métier. Parce que ta passion, tu peux la faire quand t'as envie, tu vois, le lundi, après le mercredi, après le jeudi, quand il pleut, t'y vas pas. Sauf que quand ça devient ton métier, tous les jours, t'as mal à la tête, t'es malade, t'es blessé, t'es critiqué, tu dois y aller. Et donc, foncièrement, tout ça...
Problèmes perso.
Donc, tout ça, ça tue un peu ta passion. Et donc, ça devient... Tu te rends plus compte que c'est ta passion, c'est ton métier, ça devient ton métier. Et comme pour nous tous, comme vous tous, votre métier, parfois, même si vous l'aimez, il vous saoule, il vous gonfle. Et donc, après, si j'ai en plus, à côté de ça, on vous dit, pour faire le même métier, pour avoir les mêmes emmerdes, ou la même joie, vous gagnez 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou X fois plus... Bah, vous réfléchissez. Et puis en plus, si c'est un peu sympa en fonction de s'il y a de la plage, s'il y a la plage ou ceci, cela, un bon cadre de vie pour la famille, je pense sincèrement que c'est vos femmes qui vous conduisent à l'aéroport. Allez, on y va, chérie, j'ai fait les valises et on y va. Donc c'est comme partout. Mais c'est pas évident de faire comprendre ça à des passionnés de foot.
Ouais, parce qu'ils s'expliquent. Ouais.
Mais après, quand on est posé, les gens arrivent à comprendre, quand on fait un parallèle avec leur métier, ils arrivent à comprendre.
Ouais, alors c'est toujours la difficulté d'avoir un regard froid sur quelque chose qui génère autant d'émotions. Et c'est pour ça, je pense que, tu vois, et que très facilement, sans partir sur un autre débat et faire un deuxième épisode, le footballeur est très facilement jugé sur son choix de carrière, et c'est les fameux choix de carrière, c'est forcément vénal, ceci, c'est cela, alors qu'en fait, c'est une carrière, et qu'il y a une dimension professionnelle.
T'as raison, mais c'est la faute à certains joueurs qui disent, parce que j'ai vu la déclaration de certains joueurs qui partaient en Arabie Saoudite en disant « Oui, c'est pour mettre la famille à l'abri.
Ouais. »
Ça, pour moi, c'est du bullshit. Mmh. Ta famille, elle est déjà à l'abri.
Ouais.
Quand on fait une carrière professionnelle en fonction d'un certain niveau, voilà, alors, elle est à l'abri globalement, sauf si tu flambes. Mais globalement, ne me dis pas, tu viens d'un background très pauvre, t'as gagné de l'argent, t'as mis de l'argent de côté. Ne me dis pas que c'est pour mettre la famille à l'abri. Mmh. Dis qu'effectivement, il y a des offres qui ne se refusent pas.
Ouais, la formule n'est pas la même, je suis
assuré. On est tous... Ouais. T'imagines si un footballeur professionnel qui prend un salaire à 6 chiffres par mois, il dit « Ouais, je vais en Arabie Saoudite pour mettre ma famille à l'abri », la plupart des gens ils disent quoi alors?
Ouais. Non, mais ça, j'entends que...
Voilà, il faut juste être honnête. Ouais. Il y a une grosse offre, j'y vais, voilà les gars, ne me jugez pas. Et les gens comprennent que on va pas te juger,
Ouais.
Tu vois?
Et pour rebondir sur un autre truc que tu as dit, il y a un argument qui est très important, c'est l'argument de la religion. C'est-à-dire que, effectivement, pour les joueurs de confession musulmane, on peut totalement comprendre quand la foi est une partie importante et de leur être et de leur vie, d'aller dans un pays où tu as la Mecque, mais en plus où tu peux pratiquer ta religion, si tu veux, de manière totalement libre et déjugée, on peut comprendre que ça fasse partie des arguments auxquels ils sont sensibles.
Surtout pendant la période du Ramadan. Bah, ça a toujours été franchement un gros problème en Europe, même dans les équipes dans lesquelles j'ai évolué. Il y avait toujours des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font le Ramadan? Est-ce qu'ils doivent casser le Ramadan? On leur met la pression.
Pas plus tard que l'année dernière en France. Enfin, un peu toutes les saisons, ça revient.
Elle est sortie l'année dernière, mais ça a toujours été un serpent de mer. Et là, quand tu vas là-bas, tu sais que la période du Ramadan, voilà. Alors, je sais même pas si le championnat il a lieu pendant la période du Ramadan ou pas.
Bah forcément, puisque le Ramadan se décale chaque année, donc à un moment ils vont.
Mais
après, faut voir s'il y a une coupure. Mais
ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est...
À vérifier. Ça, j'ai pas la réponse, mais à vérifier.
Ouais, j'ai pas comme ça en tête, sachant qu'ils vont quand même un peu modifier aussi le calendrier. Maintenant, ils ont déjà modifié les horaires des matchs pour la diffusion dans les pays occidentaux, parce que tu vois, pour une question de revenus, on y reviendra tout à l'heure. Mais de toute façon, t'es obligé d'adapter la pratique. Tu vois, il fait de fait beaucoup plus chaud, ce qui n'est pas forcément le plus grave, c'est le taux d'humidité qui pose problème. Donc tu t'entraînes tard, tu joues tard, et j'imagine que encore une fois, on vérifiera, et je suis sûr qu'on sera repris de voler, si c'est pas le cas, mais forcément, je pense qu'autour du Ramadan, les horaires des matchs au moins sont adaptés. Parce que de manière générale, la vie est adaptée pendant le Ramadan, c'est-à-dire que quand tu vas au Moyen-Orient, pendant la période de Ramadan, les magasins ouvrent plus tard. Tu vois, mais c'est encore une fois, c'est parce que c'est les pays, pour le coup, c'est une monarchie musulmane, donc ça fait partie de leur mode de vie.
Est-ce que parmi les joueurs que vous avez pu contacter pour ce papier dans SoFoot, ou les intervenants autour à qui vous avez pu parler, est-ce que cette question de la religion a été mentionnée avec eux? Est-ce qu'ils t'en parlent?
Ouais, c'est revenu principalement avec les personnes qui étaient du Moyen-Orient, donc qui, elles, avaient justement ce regard-là, mais c'était intéressant de voir que justement tous les Européens ou qu'on a contactés, ou même des Sud-Américains, n'ont pas eu du tout ce regard sur la religion, et on a trouvé ça assez frappant quand même de voir que justement cet argument en fait était quand même souvent balayé, ou en tout cas noyé dans des considérations plutôt sur en fait c'est un argument de dernière zone, le côté religion, musulman, islam, alors qu'en fait ça peut être tout à fait viable quoi. En tout cas, on nous a dit que ça pouvait être important, et que par rapport à ce qu'ils vivent en Europe, comme disait Edouard, où tu peux avoir des difficultés justement à pratiquer ta religion, certains joueurs vont être très sensibles au fait de pouvoir jouer au foot le matin, puis être tranquille après. Enfin voilà, c'est un argument en tout cas qui est...
Je reprends ce que tu disais sur le soft power. C'est-à-dire que soft power ou la question de la religion, c'est des questionnements occidentaux. Parce que c'est notre construction, c'est notre mode de vie et qu'on est d'ici. Mais là-bas, c'est des constructions, c'est des modes de vie différents. Et pour eux, c'est des questions qui ne se posent pas forcément, des questions qui se posent pas en premier lieu. Et je trouve que ce que tu disais sur le soft power est très important. C'est-à-dire que le soft power, c'est une considération d'occidentaux avec les valeurs occidentales. Et là, je suis pas dans le jugement ou dans le dire c'est bien, c'est mal. Je dis simplement que quand t'es construit différemment, tu penses pas soft power en Arabie Saoudite, tu penses investissement et qu'est-ce qui est bon pour le développement du pays.
Alternative football. Alternative football.
On parle de soft power. On a parlé de ça, surtout pour le Qatar. Et, pour, et ça a une connotation un peu négative. Eux, ils utilisent le sport power. Tu vois, industrie de divertissement par rapport à la jeunesse et tout ça. Et je trouve que déjà, ne serait-ce qu'employer ce terme-là, sport power, ah, ça fait sens. Ils ont racheté, comme tu l'as dit, Guillaume, le golf, tu vois, la boxe. Et donc, ça, de suite, c'est autre chose. On n'est pas là juste pour faire du soft power. On fait du sport power. C'est vraiment notre démarche, elle est authentique. Elle paraît authentique.
Et en fait, pour eux, si tu veux, en gros, ils ne se posent pas la question comme ça. Après, ça marche, hein. Évidemment. Si tu as investi plus dans le sport, on va moins parler du fait que tu as eu 1000 exécutions depuis 2015, tu vois, depuis que la famille Salman est là, tu vois. Donc, forcément, c'est sous-jacent, mais ce n'est pas du tout leur priorité. Il y a eu une interview très intéressante, justement, de Mohamed Ben Salman il y a quelques jours. Et le présentateur, je crois que c'était un Anglais, tu me corrigeras peut-être, qui lui dit, mais en fait, est-ce que vous allez continuer à faire du sport washing, donc justement, vous lavez un peu les mains avec le sport. Et lui, il répond, bah, en fait, moi, si ça me rapporte plus de 1,5 point de PIB, je le ferai, quoi.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est, le sport washing. Ouais. En fait, c'est pour montrer un peu la manière
d'avoir l'approche.
Ça te montre la manière dont il pense. Alors après, évidemment, lui, ça lui permet de se laver un peu les mains, mais voilà, en tout cas, le logiciel n'est pas le même.
Ouais. Et pour rebondir sur ça, parce que tu parlais d'agence de communication, ils ont effectivement des consultants externes, mais ce qui est frappant et ce qui est, je trouve dénote par rapport au Qatar ou aux Émirats, c'est la structuration de la Ligue cette année, à partir effectivement de cette année. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des gens pour les mettre à des postes relativement importants, voire très importants, au sein de la Ligue, au-delà des joueurs. C'est-à-dire que l'investissement, il n'est pas simplement sur ton asset footballeur, il est aussi sur ton asset dirigeant. Deux exemples, Peter Hutton, qui est l'ancien CEO d'Eurosport, qui a été pendant des années le directeur des partenariats et de la stratégie sport de Facebook, qui est dans l'industrie considéré comme un ponte, qui aujourd'hui est leur conseil sur tous les sujets de com, de médias, etc. Okay. Donc là, tu vas chercher clairement l'un des meilleurs du monde dans son métier pour t'aider sur ce sujet-là. Et ça t'aide d'un point de vue stratégie de communication, mais ça t'aide aussi sur les partenaires qu'il amène avec lui. C'est un mec qui a bossé avec à peu près tous les gens dans la prod, dans le digital, etc. Qui sait qui sont les bons, qui sont les moins bons, et il va les plugger direct avec la Saudi League. Et l'autre nomination, je trouve, qui a une signification assez importante de par son type et la qualité du mec, c'est Carlos Nora, ou c'est Carlo Nora, qui est le CEO, donc le Chief Operating Officer de la Saudi Pro League, et qui lui vient de la World Wrestling Federation, WWE. Je crois que maintenant c'est World Wrestling Entertainment, donc c'est WWE, quoi. À ma jeune époque, quand il y avait encore Hulk Hogan, c'était la WWF, enfin bref. Mais le mec, c'était le patron de la WWE en Asie. Et donc clairement la WWE, leur métier c'est l'entertainment, pour le coup c'est même pas du sport, même si le véhicule c'est du sport, eux c'est comment on divertit les gens, et donc ils vont chercher ce type de profil. Ils ont aussi fait ce qu'on fait récemment toutes les grandes ligues européennes et la France encore plus récemment, c'est de scinder la partie compétition et la partie commercialisation. Ils ont créé l'équivalent de LFP Media, ils ont créé Saudi League Media, qui est dirigé par un mec qui s'appelle Christian Pierre, qui est pareil, un consultant qui à la base vient du monde des médias.
Un Anglais.
Je crois qu'il est des Pays-Bas, si je te dis pas de bêtises. Okay.
On ira vérifier,
ouais. Mais je devrais le savoir parce que je le connais quand même un petit peu, mais bon. Donc encore une fois, et l'idée c'est pas de dire tu vas chercher des Européens ou tu vas chercher des Américains, donc forcément meilleurs, parce qu'ils ont aussi quand même des gens dans la structure qui sont saoudis, qui sont à la Ligue depuis quelques années.
Donc, l'expérience.
Mais tu vas chercher l'expérience, ah ouais. Et tu vas chercher des mecs qui ont vendu des produits type. Alors, le mec a construit la stratégie de la WWE en Asie, là c'est quand même un mec qui sait ce qu'il fait comme Peter Hutton.
Et le dernier mec qu'on peut ajouter à ton duo, c'est Michael Emenalo,
ouais.
Justement, qui est l'ancien bras droit pardon, à Chelsea.
Qui a bossé à Chelsea,
ouais,
et à Monaco.
À Monaco aussi, évidemment, ouais, qui a bossé à Monaco.
Et qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Et bah, il est pareil, il a un poste de dirigeant, alors je ne saurais plus dire exactement l'intitulé, mais justement, il a pour une fois parler, on l'a vu communiquer, alors que c'était un mec très discret justement dans le milieu, et on l'a vu faire des conférences de presse, je sais plus l'intitulé exact, mais voilà, il est dans l'équipe dirigeante, et voilà, et Menalo, c'est un Nigérian, si je ne me trompe pas, donc tu vois, il se diversifie aussi les nationalités
Europe,
qui viennent.
Asie, Afrique.
Donc c'est vachement intéressant aussi là-dessus. Ouais.
Alors c'est moins business, mais je sais qu'ils ont débauché l'historien de la FIFA, et que leur grand projet, c'est de faire la plus grande bibliothèque au monde de football, de constituer en tout cas sur toutes les archives, de devenir un peu le pays du foot, et pour ça, ça passe par l'histoire, raconter l'histoire du foot, et c'est pour ça qu'ils sont allés débaucher l'historien de la FIFA.
C'est assez énorme quand même.
Ouais, mais t'as quand même une capacité à regarder dans toutes les verticales. C'est-à-dire que tu pourrais dire, tu fais comme beaucoup ont fait, on va chercher les meilleurs joueurs. Est-ce que ça m'assure de la pérennité, notamment pour ce que tu disais, parce que tu as beaucoup qui viennent faire un an, prendre un saladier et qui repartent ? Pas forcément. En revanche, si tu mets des mecs qui structurent une approche un peu plus large sur, encore une fois, une ambition commerciale, là, c'est un peu différent. Et je finis simplement sur le name dropping qu'on vient de faire. Je parlais de deux structures, une structure compétition, une structure média. Ils ont pris pour la partie formation des entraîneurs un DTN français, Nasser Larguet, qui était directeur du centre de formation d'un club
de l'Olympique de Marseille. Voilà. Je t'invite à le dire.
qui a bossé, je crois, aussi au Maroc avant, avec Hervé Renard, qui a été chercher Hervé Renard qui a brièvement dirigé l'équipe première de l'OM aussi, et qui travaille depuis quelques années maintenant à former les entraîneurs locaux à la méthode française, parce que la méthode française en termes de formation, on en avait parlé dans Alternative Football, et plutôt reconnu. Donc voilà, il y a cette, je pense que, et si on reprend les fameuses comparaisons, soit avec les ligues voisines, la Ligue des pays voisins ou la Chine, cette ambition et cette structuration au-delà du terrain, je pense qu'elle est suffisamment importante pour être soulignée.
Oui, parce qu'on disait, tu parlais de la Chine, mais on l'oubliait, mais tu nous as dit que ton premier papier, c'était sur l'Inde. Et il y a eu la Russie aussi avec Eto'o.
Anelka, elle est jouée un peu en Inde. Robert Pires.
Donc, et t'as le Qatar. En quoi, du coup, cette comparaison, elle n'est pas du tout valable, même si on l'a déjà un peu abordé, parce qu'on voit qu'il y a une vraie structuration derrière et que ça va au-delà de juste amener les meilleurs joueurs. En quoi ce projet Arabie Saoudite, il est différent? Tu vas me dire que c'est une vision à 2030, mais en quoi il est vraiment différent de tous ces autres championnats?
Non, déjà la Chine, en fait, c'était donc déjà une volonté du PCC au départ. Donc évidemment, tu avais une volonté de l'État. Mais par contre, les acteurs qui ont investi dans le football, c'est des acteurs privés. Donc ensuite, il y a eu une volonté de l'État. Vraiment, je vais schématiser, accélérer, mais il y a eu un gros plan anticorruption de la part de Xi Jinping, et il y a pas mal d'acteurs privés qui se retrouvaient un peu le bec dans l'eau, et ils avaient plus d'argent pour investir. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'à un moment, l'investissement s'est arrêté, les joueurs ne sont plus venus, n'étaient plus payés, et puis ils sont repartis, puis il y a eu le Covid encore plus après.
Puis ça commence de zéro, chinois, c'est from scratch, quoi.
C'est ça. Il y a aussi, voilà, en plus du fait que au niveau économique, c'était pas très bien structuré. Contrairement à l'Arabie Saoudite, en tout cas, comme dit Edouard, en fait, en plus, en Chine, il n'y a pas de culture du foot. Mmh. Et puis, tu es sur un pays qui est encore beaucoup plus grand, où c'est beaucoup plus difficile.
Et t'es pas du tout le premier sport. Et je parlais de Nora Talasio, j'étais au World Football Summit à Séville la semaine dernière, il y avait un panel justement sur l'Arabie Saoudite. Et il présentait quelques chiffres des études qu'ils ont menées. Et il te disait, après, c'est présenté par la Ligue, donc il y a peut-être toujours, quelle que soit la Ligue, peut-être toujours, si tu, c'est comme les manifestations, le manifestant selon la police, mais il disait que eux, les études qui reviennent sur l'intérêt du football pour la population, c'est aux alentours de 80%. 80% des gens se déclarent avoir un intérêt pour le foot. Et donc ça rejoint, même si encore une fois ce chiffre est à prendre avec des pincettes, comme tous les chiffres, et pour un mec qui vend des stats, c'est quand même bizarre de dire ça, mais t'as le terreau, quoi, tu vois, pour...
Mais c'est vrai que nous, on a une vision recentrée, c'est-à-dire, est-ce que ça nous intéresse, nous, le championnat? Mais en fait, déjà, eux, ils ont le marché intérieur. Est-ce que déjà, juste leur marché intérieur, parce que nous, on est omnubilés par nous, est-ce que ça va nous intéresser, nous? Mais en fait, ça va déjà intéresser leur population locale, quoi.
Ils ont leur marché. Et d'ailleurs, par rapport aux data, est-ce que tu as déjà des retours de data? C'est-à-dire que l'intensité des sprints, le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs, pour voir si déjà, t'as une...
C'est un peu trop tôt pour le faire, parce que...
Tu peux pas récolter.
On récolte, mais si tu veux, pour aujourd'hui, après, si tu veux, ce, j'allais dire l'exode, mais c'est l'inverse. Après l'arrivée massive de nouveaux joueurs, est-ce qu'il y a un effet sur la manière dont le jeu est pratiqué? On a besoin de quelques mois de data, tu vois. Sur 2 mois de data, tu sors pas des trucs hyper intéressants. Après, il y a de grandes chances que ça change.
Il y a un avant, un après, mais après le après, est-ce qu'il sera toujours aussi à comparer par rapport à la Ligue 1, on va dire.
Ouais, c'est ça. Est-ce que ce qu'on va pouvoir ressortir, ça va. Est-ce que ça t'amène, si tu veux. Encore une fois, le niveau. J'aime pas parler de niveau d'un championnat parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est difficile de dire. Mais l'analyse data, est-ce qu'elle va révéler une européanisation du style de jeu? C'était peut-être un style un peu moins direct. En général, les grandes tendances quand tu compares le football européen et les footballs d'ailleurs, c'est des notions. C'est un peu moins vertical. T'as plus de passes. Enfin, tu vois. Est-ce que ce football-là va s'européaniser? Probablement un peu. Après. Aujourd'hui, l'investissement dans les nouveaux joueurs, il est, et on va en parler je pense après, il est concentré principalement autour de 4 clubs, les 4 clubs qui sont détenus par le PIF. Donc ça me fait toujours marrer de dire que le fonds s'appelle le PIF, mais il s'appelle le PIF, Public Investment Fund. Derrière, si t'as Al-Ittihad qui a aussi investi un petit peu avec notamment Steven Gerrard comme entraîneur et Anderson. De Liverpool. Donc c'est surtout ces 4 équipes-là qui va, en termes de pratique, qu'il va falloir surveiller. Sur le reste, ce qui risque de se passer, et encore une fois, je pense que ça, tout le monde peut le comprendre, c'est que tu risques d'avoir un écart entre les clubs.
4-5-6 clubs
et le reste du championnat.
Et pourquoi que 4 clubs?
Je pense que c'est là où tu raccroches avec le côté popularité, le fait que c'est une terre de foot, c'est que c'est les 4 plus gros clubs.
T'as deux clubs à Riyad et deux clubs à Jeddah.
C'était les 4 clubs les plus couronnés.
Ouais, t'as Al Nasser et Al Ahly à Jeddah et t'as Al Hilal et.
C'est Al Hilal à Riyad.
Et vas-y, pardon. Vas-y.
Ouais, donc c'est Al Nasser, Al Hilal, c'est ça, Riyad, c'est bien ça. Et Al Ittihad et Al Ahly à Jeddah,
c'est voilà. Ça. Ouais. Qui sont déjà les 4 plus gros clubs du pays. Donc, encore une fois, le fonds d'investissement, il ne le fait pas pour la gloriole. Il se dit, aujourd'hui, c'est moi qui peux générer cette manne financière pour qu'on devienne un acteur du foot. Je ne vais pas prendre les 4 clubs que j'aime le plus. Je vais prendre les 4 clubs qui déjà ont une culture d'attirer des joueurs de l'étranger.
Oui, ils ont une fanbase.
Une fanbase qui feront le meilleur produit.
Et un palmarès aussi. Parce qu'on a oublié tout à l'heure de le dire, quand on voulait recontextualiser le football de l'Arabie Saoudite, on a oublié de dire que Al Hilal était le club le plus titré sur la scène en Ligue des Champions Asiatiques, avec 4 titres. Et du coup...
Al Hilal qui est le club de Neymar.
Ouais,
comme
ouais,
ça, les gens
pour Neymar, Koulibaly,
bleu.
Tu fais bien de le préciser.
Et en quoi la stratégie est-elle, on l'a compris pour la Chine, mais en quoi la stratégie est différente d'un pays comme le Qatar ou d'autres pays du Golfe? Parce qu'en fait, on voit qu'ils veulent aller chercher la Coupe du Monde. Donc déjà, ils voulaient acheter Manchester United, ça s'est pas fait. Ils ont acheté Newcastle.
Ouais.
Après, ils recrutent beaucoup de joueurs. Ils prennent des ambassadeurs un peu comme le Qatar l'avait fait et ils veulent avoir la Coupe du Monde. En quoi, du coup, on se dit, ça ressemble à. Okay, c'est la politique, la stratégie du Qatar. Mais en quoi c'est différent de la stratégie du Qatar?
Tu veux y aller ou tu veux que je.
Vas-y, démarre rapidement.
Ouais,
okay. Je vais juste répondre à un truc. C'est juste la taille du pays, c'est pas la même. Hein. Qatar, c'est un nain.
C'est un point déjà.
Ouais, c'est le premier point.
C'est un point super important et en géopolitique, ça fait la diff. Plus c'est gros, plus c'est bien.
Ouais, non mais c'est.
Non mais. Allez, balancez.
Oh là là, il va y avoir un petit peu d'édit à faire. Mais non, Edouard a complètement raison sur la taille du pays, la population, c'est 35 millions d'habitants, l'Arabie Saoudite. Le Qatar, je crois que c'est 1 million 4 ou peut-être 2 millions, tu vois.
Et avec la moitié d'étrangers.
Si c'est pas 75%. Et puis, d'un point de vue, c'est des sociétés complètement différentes. Encore une fois, on a ce grand fourre-tout occidental de dire, c'est le Moyen-Orient. Sans rentrer dans les détails, on en parlait tout à l'heure en intro, entre nous. Le Qatar et les Émirats, quand t'es Qatari Émirati, ils sont très peu, donc ils veulent entretenir. Ils veulent entretenir l'appartenance de ces gens de nationalité. Donc il y a des systèmes de rente, on leur donne des terrains, des maisons, t'as un certain nombre d'avantages qui vient avec le fait d'être de nationalité et d'être de lignée. L'Arabie Saoudite, c'est une société normale. C'est-à-dire que t'as pas énormément de pauvres. T'en as quand même, on disait 20%, je crois à peu près.
C'est ça.
C'est quand même pas mal. T'as une classe moyenne. et t'as des très riches. Donc rien que ça, si tu veux, c'est une société en volume qui est plus importante et aussi qui, en termes d'intérêt, coche les cases du foot. Parce que le foot, c'est le sport d'un peu tout le monde, notamment des classes moyennes et des classes populaires. Ça c'est un premier... c'est une première chose qui peut déjà placer le contexte, qui ne peut pas expliquer l'investissement, la stratégie, mais qui va placer le contexte. Déjà, encore une fois, le terrain est favorable et ça fait des années que c'est un terrain de foot. C'est un terrain de foot, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, la stratégie... ce qui ressort, c'est que c'est complètement différent si tu prends le Qatar, par exemple. Je pense que sur la question du sport et du foot, je mets quand même les Émirats de côté parce que c'est moins leur sujet. Eux, c'est avant tout le tourisme, avec Dubaï et la culture avec Abu Dhabi. Le foot, ils ont des clubs, ils investissent un petit peu dedans, mais il n'y a pas une ambition démesurée sur le foot. Le Qatar, c'est de l'image. Quasiment à 100%. C'est-à-dire que l'investissement dans le championnat local, il est minime. Tu as un phénomène l'année dernière, ou il y a deux ans, où Antero Henrique, qui est proche de Nasser, est devenu directeur sportif pour avoir un peu de traction, permettre de faire quelques deals, tu vois, entre Paris et le Qatar, ou entre d'autres, hein, mais qui, pour le coup, là où Paris joue un peu le même jeu que Newcastle avec l'Arabie Saoudite, ou Chelsea, qui a aussi des investisseurs saoudiens. Qatar, il y a un investissement dans le PSG, on fait de l'image, on travaille nos relations avec les institutions pour arriver à la Coupe du Monde, et c'est avant tout basé sur ça. Je pense que la stratégie de l'Arabie Saoudite, il faut l'allier à la vision 2030 de MBS, c'est pour diversifier les revenus et aller chercher l'investisseur. C'est en gros, on crée un produit dans lequel on va pouvoir aller chercher des fonds américains qui vont venir investir dans nos clubs, des gens qui vont venir investir dans nos stades, des chaînes étrangères qui vont mettre des moyens de production pour diffuser. Et je pense que le modèle actuel qui a été démarré par le PIF qui achète, qui prend, je crois que c'est autour de 75% dans chaque club, un ticket. C'est vraiment le modèle de départ, mais l'idée, c'est de dire, venez investir dans notre sport, c'est un vrai truc. Et donc, c'est plus une stratégie d'import que d'export comme celle du Qatar. Je pense que c'est ce que vous en pensez, monsieur.
C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout... il y a une volonté de rassurer les investisseurs. Il y a un côté... nous, on montre qu'on sait faire comme vous, un peu. On a notre business. Venez avec nous. Et puis, dans cette économie... post-pétrole dans quelques années, faut montrer qu'on sait faire autre chose et faut rassurer les autres investisseurs, tout simplement.
Je trouve que c'est cohérent, c'est un petit peu comme quand tu as une start-up, tu fais un deck pour aller chercher des investisseurs, et là, en fin de compte, ils expliquent par A plus B, voilà, nous, on a cette vision-là, on s'y prend comme ça, vous en dites quoi? Vu de l'extérieur, tu dis, ouais, c'est pas mal, je vais peut-être investir. Avec vous. Ça paraît cohérent.
Pour moi, s'il y a un truc qui est nécessaire à comprendre, c'est vraiment le mythe qu'il faut casser par rapport au Mainland. Et je suis absolument pas là pour je suis pas leur.
Tu travailles pas pour Havas ou Publicis qui font leur.
T'es ambassadeur. T'as signé un contrat d'ambassadeur ou quoi?
Je suis pas RP du Mainland. J'essaie simplement d'être juste dans mes analyses, tu vois. Encore une fois, c'est des gens qui sont compétents. Hein.
C'est smart.
Tu vois, c'est des gens, ils partent pas sur un marché en se disant, on va aller faire du foot, on va aller faire du cinéma, et on va le faire n'importe comment parce qu'on est plus riche que les autres. C'est des gens qui savent faire des affaires, qui les font avec une certaine culture, mais de la même manière que les Américains ont une culture des affaires qui est assez particulière, que les Japonais, pareil. Encore une fois, quand tu t'intéresses au sujet, tu vois, et c'est aussi une des différences, alors notamment avec la Chine, tu l'as même évoqué tout à l'heure, même si l'approche qatari est très structurée, mais structurée pour un objectif différent, comme on l'a dit, c'est structuré. Tu vois, voilà. C'est structuré.
Maintenant que tu dis ça, l'Arabie Saoudite, je le trouve beaucoup plus structuré que celle, que la stratégie des Qataris, ou qatariennes. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que l'Arabie Saoudite, c'est vraiment un investissement, okay, et que le Qatari, et que les Qataris, c'était un peu de la dépense. Ils ont splashé un petit peu de la monnaie parce qu'ils en avaient plein. C'était tellement une nécessité pour eux, je pense, qu'ils ont, dépensé. Alors que les Saoudiens, c'est différent.
Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec le temps. Je pense que l'objectif final est différent.
Et est-ce qu'il peut exister un football moins eurocentré? Ou est-ce qu'il y a des limites à cette explosion du championnat, même si du coup il y a les droits, il y a plus de joueurs qu'au Qatar, il y a des grands joueurs, il y a des joueurs avec un vrai niveau qui arrivent à leur prime, il va y avoir une concurrence parce qu'il y a plusieurs clubs, mais est-ce que ce football moins eurocentré peut exister?
Alors encore une fois, on est dans la prospection, hein, comme disait Edouard, on ne sait pas forcément, on va voir ce que ça va donner dans quelques années. A priori, le plan est quand même bien goupillé pour que ça dure pas mal de temps. L'écueil qu'on voit, en tout cas que nous, on nous a rapporté sur le terrain, c'est que bah, l'Arabie Saoudite, justement, elle va être un peu seule sur ce créneau-là, dans la région. Et alors, si tu veux avoir un pôle d'attraction, il faut plusieurs championnats de ce niveau-là, avec autant d'importance, autant de moyens. Et a priori, ça ne sera pas le cas, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, le Qatar, c'est très différent. Les Émirats s'en fichent un peu. Autour, bah, le Yémen, donc, il se fait bombarder par l'Arabie Saoudite, c'était quand même en guerre pendant des années. Enfin voilà, t'as pas 1000 pays en tout cas qui peuvent créer un pôle d'attraction avec l'Arabie Saoudite, contrairement à l'Europe, justement, qui gardera sûrement ce côté épicentre. Et surtout, l'Europe, c'est toujours se raccrocher au wagon. On évoquait tout à l'heure, avant l'émission, la possibilité peut-être qu'un jour il y ait des clubs saoudiens en Ligue des Champions, il y a déjà eu une rumeur là-dessus. Donc en fait, pour l'instant, le pôle d'attraction restera l'Europe. On verra dans quelques années si ça change.
Moi, je pense simplement que les Européens, on pense à Champions League. Je pense qu'on regarde aux États-Unis, dans la MLS, il n'y a pas de grands championnats autour. Okay. Et l'Arabie Saoudite peut faire sa Super League, hein, et se dire, nous, on n'a pas besoin de la Champions League ou quoi que ce soit. On est une ligue, et au sein même de notre ligue, on va mettre les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, et puis basta. C'est aussi possible. Et ils sont peut-être partis pour ça.
Et c'est ce qu'on disait, c'est assez proche aussi de la stratégie d'investissement qu'ils veulent développer, à savoir attirer des gens. Et si tu veux attirer des gens, il faut que le produit soit très fort localement. Et je vais radoter, mais en plus, ils ont un terrain favorable. Il y a du monde. Alors, il y a pas le panier moyen du mec qui va au stade, il n'est pas aussi élevé qu'en Angleterre, mais il y a des gens qui sont intéressés par le sujet. Et après, il y a, je pense, quelques autres éléments à prendre en compte, c'est que est-ce que le football sera moins eurocentré? Je pense que c'est difficile à dire, et c'est très peu probable, parce que t'as aussi une question culturelle. Le foot, c'est le sport à la base de l'Europe. Mais t'as quand même quelque chose qui est important, je pense, à souligner, c'est que on entend très souvent que le foot, c'est le sport global, c'est le sport de tout le monde, c'est le sport du monde. La réalité, quand tu regardes ne serait-ce que les revenus générés par le foot, effectivement, c'est très eurocentré. Donc avoir une puissance financière ailleurs, ça participe, qu'on soit d'accord ou pas, à la globalisation de...
À la réelle
globalisation du foot. Et ça, c'est géographique, si tu veux. C'est l'autre chose qui est, selon moi, importante, c'est que cet investissement, il bénéficie pas qu'au football saoudien. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs autour qui ont intérêt à avoir des marchés qui peuvent amener de la liquidité. On parlait des agents. Quand tu es agent de joueur, même si, Guillaume, on en parlait tout à l'heure, tu as beaucoup d'intermédiaires aussi, parce que c'est un nouveau marché, donc tout le monde va avoir encore pignon sur rue, il faut créer les connexions. Mais les agents, avoir ce pôle-là qui est capable de dépenser, de venir chercher des joueurs, c'est intéressant pour eux. Il y a aussi, je pense à ça, il y a des footballs qui se développent et qui vont chercher les revenus. Tu as la CAF, donc en Afrique, qui lance sa Super League, ils vont rechercher des sponsors. Je ne serais pas hyper surpris de voir des boîtes qui viennent d'Arabie Saoudite investir dans ce football-là, déjà parce qu'en sponsor, il y a un intérêt, mais aussi parce que tu peux aussi aller chercher des joueurs sur le continent africain qui avant passaient majoritairement par l'Europe, alors que là, ça ouvre aussi un autre canal de développement pour le football africain. De manière générale, les sponsors, enfin après, c'est les acteurs du foot qu'on connaît qui simplement bénéficient d'un marché qui est plus gros que ce qu'il était avant. Et ça, encore une fois, on essaie d'être très froid et sans prendre aucun parti. Dans un marché quel qu'il soit, quand tu as un nouvel acteur qui est prêt à dépenser de l'argent, en général, l'écosystème, il en bénéficie.
On l'a vu avec le PSG et les 90 millions qu'ils ont récupéré de Neymar.
Ouais, mais voilà, tu vois.
Et pour finir sur le côté foot multipolaire, il y a, en fait, les gens nous, qu'on a rencontrés, ils nous ont dit, bah, il y a quelques années, il y a 20, 30 ans, 40 ans, bah, en fait, le football sud-américain était quand même bien meilleur. C'est-à-dire qu'en 2000, tu as Boca Junior qui bat le Real Madrid en finale de la Coupe Intercontinentale. Les joueurs sud-américains partaient beaucoup moins tôt, en fait. En Europe, Riquelme, il part à 24 ans au Barça, ce qui est très tard, en fait. Et en fait, le phénomène de prédation, si tu veux, de l'Europe vis-à-vis d'autres continents, soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, dans une moindre mesure, en fait, bah, là, il se reproduit, mais à l'inverse. Donc ça, qui est intéressant à voir, c'est que justement, bah, là, en fait, c'est l'Europe se sent attaquée, parce qu'en fait, habituellement, bah, c'était l'Europe qui prenait les joueurs.
Follow the money. Faut suivre l'argent.
Messieurs, il nous reste une minute. Un petit mot de conclusion sur l'Arabie Saoudite partie pour durer. Oui. Point d'interrogation.
Et moi, je réponds, je dis oui.
parce que tout, sur tout ce qu'on a dit, c'est cohérent. En fin de compte, c'est un investissement qui, comme tout investissement, il peut ne pas réussir. Mais en tout cas, ils ont mis toutes les bases pour que ce soit un investissement pérenne et fructueux.
Mathieu.
Ouais, je suis assez d'accord avec Edouard. Je pense que c'est pas un caprice de 2023 et que c'est rattaché à une ambition qui est beaucoup plus large que le foot, mais que le foot est quand même un véhicule très important pour ce qu'ils essayent de faire.
Guillaume.
Ça bougera, enfin en tout cas ça, c'est parti un peu pour durer. Je pense pas que par contre ça changera les équilibres du foot mondial. Voilà.
Eh ben merci messieurs pour cette première.
On fait le même épisode dans 5 ans et puis on fait les comptes.
On fera le bilan.
En direct de Riyad.
On le fait à Riyad.
Dans 5 ans, ouais, effectivement.
Pour la saison 34 d'Alternative Football.
Exactement. Ah, on a oublié. Follow, liker, commenter sur les plateformes, messages de service. Et continuez à nous suggérer des thèmes et des invités.
Sur LinkedIn.
Sur LinkedIn. Petit teaser, on a une suggestion courante semaine dernière qui a piqué notre curiosité, donc on revient vers vous.
Very good.
Donc suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter.
Et sur Twitter.
Merci à tous.
X.
Oui, pardon.
C'est plus Twitter, il faut la refaire.
Cut.
Et suivez-nous sur X.
X, c'est bon. Salut, messieurs.
Ciao.
Salut.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.